pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
L'histoire peut apparaître comme quelque chose d'un petit peu effrayant. Ouvrir un bouquin d'histoire, souvent c'est pas très bien écrit, les historiens sont pas des littérateurs. Donc l'histoire, ça peut paraître intimidant et beaucoup de gens peuvent dire « j'ai pas à lire un livre d'histoire parce que ça me fait peur, c'est pas bien écrit, c'est pas très attrayant. J'ai eu des cours, c'était chiant. La fiction est quand même une porte d'entrée. De voir cette série-là, ça va nous emmener à tout un tas d'éléments historiques et ça peut mettre en appétit. Alors bien sûr, celui qui fait la fiction n'est pas un historien. Dans Game of Thrones, le but, c'est pas de faire un univers médiéval crédible, enfin, réel.
Salut Cédric.
Salut.
Deuxième chapitre autour de notre survol de ton bouquin Game of Thrones, de l'histoire à la série.
Ce bouquin, c'est l'idée de mettre en parallèle des événements, des individus, des groupements ou des lieux de la série pour voir leur correspondance dans notre histoire réelle.
L'auteur Game of Thrones, R.R. Martin, en français, s'est inspiré de lieux, d'événements, de personnages historiques réels pour nourrir sa fiction. Avec cette question donc, qui va peut-être clore cet entretien aujourd'hui, n'est-il pas dangereux finalement d'amener les gens à l'histoire en les faisant passer par de la fiction ? En tout cas, toi, tu as relevé un certain nombre de points dans quatre grandes parties dans ton bouquin, hein, lieux, groupements humains, personnages historiques. Et événements historiques. On a déjà parlé des lieux et de certains événements historiques lors du précédent entretien. Et on poursuit aujourd'hui avec ce nouveau chapitre.
Oui, alors les personnages, alors il y en a de multiples, hein, j'en ai pris une dizaine. Tu préfères quoi ?
Je te propose.
Pourquoi pas le grand moineau ? Je peux te présenter Renly Baratheon, le roi homosexuel. Ou bien on pourrait aller faire un tour du côté des rois débiles. Parce que là, il y en a un paquet.
Comme ça, on est courant. Le grand moineau, c'est très très bien. Dans la série, bon, moi je le vois comme ça, cette espèce de secte qui fait penser à une secte chrétienne qui oblige ses adeptes à l'ascèse, etc. D'ailleurs, comme il y a un côté lutte des classes très marqué, hein, c'est une armée de pauvres, au début je les trouve plutôt sympathiques, parce que ces riches couverts de perles, de broderies qui écrasent le peuple sont assez insupportables dans Game of Thrones, et j'ai vu l'émergence de cette secte de pauvres avec une certaine sympathie, jusqu'au moment en fait, où tu te rends compte que c'est vraiment une bande de tarés. On l'a mentionné lors de notre dernier entretien, la vilaine reine Cersei passe entre les pattes de ces gens-là dans une séance d'humiliation publique. Et donc le grand moineau, c'est le dirigeant de cette secte, oui, qui évoque le fondamentalisme d'aujourd'hui.
Oui, c'est un personnage qui est intéressant parce qu'il apparaît totalement à la marge au début. Et on le voit manœuvrer dans l'œuvre. Alors c'est un homme, effectivement, qui est un ascète, qui paraît finalement plutôt sympathique, qui est très critique vis-à-vis du clergé en place et qui donne la soupe populaire, essaye de convaincre les nobles et les riches de partager les richesses. Donc il nous apparaît comme un personnage plutôt sympathique et d'autant plus qu'il a l'air vraiment convaincu par ce qu'il est, c'est pas un manipulateur. Hein,
du côté théologie de la libération sud-américaine, là, voilà, c'est prêtre de gauche.
Voilà, il est en haillons, il partage la vie des pauvres, il sert lui-même la soupe, hein, il se contente pas de dire qu'il faut servir la soupe aux pauvres, il le fait. On a un côté un peu Jésus, hein, je lave le pied des pauvres, etc. Il a un côté plutôt sympathique.
L'abbé Pierre Rabhi, quoi.
L'abbé Pierre Rabhi. C'est pas mal.
Frugalité heureuse, tout ça.
Frugalité heureuse, ouais, il a un côté sympathique. On en apprend plus sur son histoire après. Donc c'était un savetier, il fabriquait des chaussures, des sabots, etc. Au début, pour le peuple, et ensuite, vu son habileté, il était passé au service de princes très puissants, dont progressivement il a partagé la vie, d'abord l'argent, parce qu'il est devenu très riche, et la vie, qui était une vie de débauche, dont il jouissait. Et il nous fait un côté crise mystique, on a un petit côté Saint-François d'Assise, ouais, ce riche fils de marchand qui d'un coup renonce à tous ses biens, se retire dans une caverne.
Qui est un truc d'ailleurs qu'on retrouve dans pas mal de religions. Chez les Indiens, un certain nombre de sadhus sont des riches qui ont renoncé à leur possession terrestre. Je crois que dans l'islam aussi, c'est promu comme comportement, hein, c'est-à-dire voilà, l'abandon des biens terrestres pour l'ascèse et, voilà, et l'humilité.
Celui qui va devenir Saint-Jean-Baptiste, mais qui était un juif, qui se retire dans le désert, etc. Et puis qui attire son cousin Jésus, allez viens, tu vas voir, on va faire un truc un peu spécial, ce que dit le temple, etc. C'est pas bien, on va fonder un truc un peu à part, etc. Donc il a un côté plutôt sympathique. Il devient très influent à partir du moment où il a une assise populaire, grâce à son action sociale, et aussi, nouvelle base de son pouvoir, il développe, il exerce une emprise sur des gens issus des classes sociales supérieures, notamment le fameux Lancel Lannister, le cousin et occasionnel amant de Cersei, qui lui aussi pris d'une crise mystique, oh l'inceste c'est pas bien tout ça, mon dieu j'ai péché et compagnie, se jette dans les bras de cet homme-là. Et on voit cet homme-là qui nourrit des ambitions politiques.
Ça me fait penser toujours à la réalité, hein, puisque c'est le principe de ton bouquin, de la série à l'histoire, ou de l'histoire à la série, on ne sait plus dans quel sens ça se prend. Mais quand tu parles du grand moineau, de ses actions populaires, etc., je pense à la fois aux frères musulmans en Égypte, le mouvement Ennahda musulman en Tunisie qui remplace les défaillances de l'État en assurant de la scolarisation, des soins, des dispensaires auprès de la population, et population déshéritée. Donc voilà, en Tunisie, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu de la sympathie pour Ennahda, parce que Ennahda assurait des missions de service public qui n'étaient plus assurées par l'État. Pendant que tu parlais de ça, je pensais au grand moineau et à sa secte.
Et oui, l'islamisme politique tel qu'il émerge dans les années 70, naît de la conjugaison, effectivement, de l'alliance tacite entre une bourgeoisie pieuse qui, tout compte fait, se dit que l'accumulation de biens matériels n'est pas le but de la vie, etc., qui nous fait une crise mystique, une alliance de cette bourgeoisie avec le lumpenprolétariat qui souffre et qui ne trouve aucun secours de la part d'États corrompus, inefficaces, distants, etc., et qui va effectivement se jeter dans les bras du premier sauveur venu, qui apparaît comme un homme sage et prévenant. Alors le personnage du grand moineau en lui-même, il renvoie à une autre figure, hein, par son côté purificateur, c'est l'image de Savonarole. Alors Savonarole, c'était un moine dominicain italien qui est né au milieu du 15e siècle, qui arrive à Florence en 1482. En 1482, Florence, c'est le summum de la prospérité, c'est les Médicis, ce sont les fiestas incroyables. Hein. On nous raconte des trucs qui feraient passer n'importe quelle orgie moderne pour un rendez-vous de premier communion, où les plus grands artistes multiplient les œuvres, notamment Botticelli, multiplient les œuvres considérées un peu comme impies. Hein. On présente les dieux de l'Antiquité, etc. Et cette prospérité a du mal à cacher la pauvreté de larges franges de la population qui, effectivement, ne bénéficient qu'aux marges de l'incroyable richesse qu'accaparent les plus puissants, et notamment les Médicis qui ont pris le contrôle politique de la cité. Et Savonarole, eh bien, il suit le parcours du grand moineau, ou le grand moineau suit le parcours de Savonarole. Hein, c'est vraiment exactement le même profil, ascète, orateur, né, personnage charismatique, qui sait miser ses pions aussi dans les familles un peu moins prestigieuses que les Médicis pour attirer à lui des jeunes gens en rupture de banc et qui mène une action sociale. Et lorsque la situation politique de Florence tourne vinaigre dans les années 1490, à savoir que vous avez les armées françaises de Charles VIII qui commencent à se ramener pour aller piller la région, que le souverain Médicis se barre la queue entre les pattes parce qu'il a peur, il y a un vide politique qu'il va remplir, mais surtout, il va mettre une rupture considérable. Pour lui, les malheurs du temps ne sont que les fruits de la débauche morale et intellectuelle, et il va mettre en place une véritable théocratie. Alors, il va y avoir des pénitents noirs qui vont chasser, qui vont fermer les bordels, qui étaient multiples, alors ce qu'on retrouve dans la série. Hein, il ferme les bordels, il confisque la richesse à certaines personnes jugées comme particulièrement impies, et va mettre en place les fameux bûchers de la vanité, dans lequel il invite les riches à balancer leurs œuvres d'art, leurs biens matériels pour se consacrer uniquement à la vie spirituelle. Alors parmi ces gens qui vont contribuer à ces bûchers des vanités, il y a Botticelli qui va balancer la plupart de sa production dans les flammes, et ce qui a été sauvé, ce qui nous est parvenu, c'est parce que ça avait été emporté dans des palais d'été des Médicis qui avaient mis ça loin de Florence. Mais tout ce qui avait été conservé à Florence a été détruit, hein. Les trois quarts de ce que Botticelli avait peint comme œuvre se référant à l'Antiquité, etc., a été détruite complètement. On voit là effectivement un pouvoir qui devient complètement fou et tyrannique. Alors, Savonarole va mal finir, parce qu'il se croit plus puissant qu'il ne l'est vraiment, et le pape Alexandre VI, qui est un pape un peu dispendieux, c'est un pape qui aime bien les petites filles, il n'a rien contre les petits garçons non plus, qui aime bien accumuler l'or, c'est pas un roi de la vertu, il a un petit peu peur de ce Savonarole, et il le fait convoquer, parce que c'est quand même le pape. Et lui demande d'où viennent ses visions, parce que oui, Savonarole, il a aussi des visions, etc. Il est un peu prophète, etc. Et bon, en gros, il va lui faire le coup de l'abbé Cochon à Jeanne d'Arc, hein. T'as des visions, mon pote? Elles viennent pas de Dieu, elles viennent du diable. Donc, tu vas voir ce que tu vas voir. Alors, Savonarole, sentant le coup venir, ne se rend pas à Rome, il est pas stupide. Sauf que le pape prend des sanctions, la ville est frappée d'interdits. Alors, ça veut dire quoi, être frappé d'interdits? Ça veut dire que plus aucune cérémonie religieuse ne peut se tenir dans Florence. Ce qui, dans une ville qui reste une ville très chrétienne, pose un problème. Les gens ayant peur pour le salut de leur âme, tout simplement. Et donc la foule se désolidarise, hein, très largement de Savonarole, qui s'entoure d'un petit groupe totalement fanatique qui fait régner pendant quelques semaines une terreur absolue, jusqu'à ce qu'il soit abandonné et capturé par les troupes du pape, qui vont le pendre, puis le brûler, pour être sûr que plus aucun souvenir ne reste de lui. Alors, Cersei, elle sera plus expéditive, hein, elle fera sauter tout le temple avec tous ses ennemis à l'intérieur, ce qui aura le mérite de nettoyer l'ensemble.
En regardant Game of Thrones, Cédric, et notamment en passant par l'histoire de cette secte fondamentaliste des moineaux, hein, dirigée par le grand moineau que t'évoquais à l'instant, impossible aussi de ne pas penser au phénomène du fondamentalisme religieux, notamment islamique ou salafiste, je sais pas très bien quel terme il faut employer, étant assez inculte en ce domaine, mais ça m'a fait penser un article tout à fait stupéfiant que Le Monde Diplomatique a publié il y a quelques années, où il faisait un parallèle qui pouvait sembler scabreux au départ, c'est-à-dire que le Diplo mettait en parallèle deux jeunesses, la jeunesse qui a rejoint les brigades internationales en Espagne en 1936 pour lutter contre Franco, et de ces jeunes qui vont faire le djihad en Syrie ou ailleurs. Et on peut pas comparer des jeunes gens épris de liberté et d'humanisme de 1936 des brigades internationales à ces gens complètement endoctrinés qui vont faire le djihad. On peut pas comparer ce qui est incomparable, etc. Et pourtant, le Diplo va mener plutôt bien sa démonstration. Et on pouvait retrouver un point commun, l'idéalisme de certains jeunes, hein, parce que certains jeunes, parfois, ont envie de refaire le monde. D'autres ont envie de regarder la télé et jouer aux jeux vidéo en fumant des pétards. Pas foutre grand-chose de leur vie, mais certains jeunes ont envie de changer le monde. Et c'est vrai que le modèle de société qu'on nous présente aujourd'hui, c'est-à-dire le bonheur, c'est consumérisme, c'est des bonnes femmes à poil sur des affiches pour vendre des bagnoles et des tubes de dentifrice, on comprend qu'il y ait certains jeunes qui n'aient pas envie de corruption, de la consommation, du corps objet pour vendre des biens marchands qui sont censé nous rendre heureux alors que ça nous rend pas du tout heureux. Les gens qui rejoignent aussi cette secte des moineaux, bon, il y a évidemment les pauvres, là on a déjà mentionné Enarda ou les frères musulmans, quand les religieux assurent des missions de service public qui ne sont plus assurées par l'État, mais on peut aussi penser à une certaine jeunesse qui aspire à des choses beaucoup plus nobles que ce modèle marchand qui nous est imposé.
Il y a aussi l'aventure. L'aventure, effectivement, il y a l'idée de sortir du monde tel qu'on nous l'a donné, et l'aventure comme moyen de renverser l'histoire. Et ensuite, que ça soit à des fins effectivement humanistes ou complètement délirantes, il y a ce désir d'aventure, et aussi ce sentiment de puissance, c'est-à-dire qu'on n'est rien. Et là, groupé avec certains autres qui partagent vos convictions, vous devenez une force. Une force menaçante, une force qui peut renverser l'histoire, etc. Et il y a un effet grisant, qui est évident. Et quel que soit le combat que l'on mène, il y a cette dynamique-là qu'il ne faut pas sous-estimer.
Donc non seulement on devient quelqu'un, mais en plus, soi-disant, entre guillemets, pour une bonne cause.
Pour une bonne cause. Et donc forcément, on est quelqu'un de meilleur. Meilleur que ce qu'on en était, et meilleur que la masse des gens qui sont face à vous. Et c'est une clé de lecture qu'il ne faut jamais enlever. Il est probable que les jeunes qui aujourd'hui se vautrent dans l'islamisme le plus crasseux, etc., auraient peut-être été dans les années 70 des révolutionnaires de gauche, des brigades rouges ou de la fraction armée rouge. Ça peut paraître totalement délirant parce que les idéologies sont complètement différentes, mais c'est pas complètement impossible.
Une fois de plus, Game of Thrones, finalement, en se passant de la rigueur de l'historien et de cette science humaine qu'est l'histoire, la fiction peut rapidement, finalement, démonter certaines mécaniques qui existent dans la vraie histoire avec un grand H, quoi. Mais en allant plus vite.
Ça nous pose des questions. C'est une invitation à réfléchir. Je pense que c'est vraiment une porte d'entrée qui peut être un élément intéressant pour tous.
Je suis islamiste. Je crois à l'islam. Je suis islamiste. C'est pas haram. Je suis islamiste. Je crois l'islam. Je suis islamiste. C'est pas marrant. Les épithètes, je les coupe la tête. Je l'arrache la langue de ta grand-mère. Et je l'écrase par terre avec mes tongs. L'orthographe, je l'ai mis 12 baffes avec le couteau. Je l'ai coupé les mots à petits morceaux comme on a fait les carpaccios. Je suis islamiste. Je crois à l'islam. Je suis islamiste. Et c'est pas haram. Je suis islamiste. Je crois à l'islam. Je suis islamiste. Et c'est pas Coran. Je sais pas lire. J'ai pas à écrire. Les baraboules, j'en ai ras-le-bol. Les métaphores, je les prends la voiture et je les roule sur le corps. Je vais aller brûler toutes les écoles avec un briquet. Je vais aller niquer tous ces marioles. Je suis islamiste. Je crois à l'islam. Je suis islamiste. C'est pas marrant. Victor Hugo. Emile Zola. Jaboul Sartor, Sahar, Baudelaire, c'est des islamistes aussi, à leur manière. Je suis islamiste. Je crois à l'islam. Je suis islamiste. C'est pas haram. Je suis islamiste. Je crois à l'islam. Je suis islamiste. C'est pas Coran.
On poursuit l'approche de ton bouquin, Cédric, de l'histoire à la série autour de Game of Thrones. C'est aux éditions Nouveau Monde. Donc on a parlé des lieux, on a parlé des personnages, on a parlé des événements historiques. Et donc quel est ton quatrième chapitre ?
C'était en fait les organisations, c'est-à-dire les groupes que l'on voit en action. Donc là, on a clôturé effectivement sur le Grand Moineau, mais et sa secte qui s'appuie sur sa secte, effectivement. Donc la secte, effectivement, est un truc intéressant. Et donc de voir que l'univers de Game of Thrones est parcouru effectivement par des groupes qui évoluent à la marge du pouvoir et qui soit tentent de survivre, plus ou moins, genre les hommes de pierre, etc., qui essayent de survivre dans leur coin, victimes de maladies qui s'assimilent à la lèpre, comme les sauvageons qui essayent de se sauver face aux autres, voilà, un autre groupe terrifiant qui est l'un des moteurs de l'intrigue, et d'autres groupes qui, à Westeros, tentent de survivre dans le chaos total qui se déchaîne à partir de la première saison, à partir du moment où on rentre dans une véritable guerre civile entre les Lannister, qui détiennent le pouvoir, et les autres maisons. Alors, parmi ces groupes, je peux te proposer la Fraternité sans bannière, qui correspond bien aux thématiques qu'on développe habituellement dans l'émission.
Alors, je t'avoue qu'il y a des pans de l'intrigue de Game of Thrones que je laisse tomber, parce que moi j'attends qu'ils parlent du mur en fait, et puis que les zombies ils attaquent, quoi. Donc là, ce dont tu parles, la Fraternité sans bannière, je vois plus du tout qui c'est.
En fait, c'est un personnage qui est très secondaire, qu'on voit apparaître pendant la première saison, qui s'appelle Beric Dondarrion, qui est un chevalier, une espèce de chevalier modèle, qui a prêté serment au roi Robert. Et suite à la mort du roi Robert, en fait, il s'est affilié à Ned Stark parce qu'il lui semble le personnage le plus crédible, le plus honnête, le plus droit, ce qu'il est. Mais une fois Ned Stark mort, il est un petit peu perdu, ce personnage. Et il est d'autant plus perdu qu'il s'aperçoit que les troupes Stark, menées par le fils de Ned, ont des pratiques de guerre qui n'ont rien à envier dans leur cruauté vis-à-vis des populations civiles que celle des Lannister, et que la guerre, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de méchants, et que des espèces de brutes qui se battent pour avoir le pouvoir. Et pour lui, en tant que espèce de chevalier idéal, un petit peu comme Brienne, hein, c'est l'équivalent un peu de Brienne, il ne veut pas participer à ça. Au nom d'une fidélité qu'il a juré un jour à un homme, il dit c'est pas ça. Et donc il va se retirer de la vie militaire et s'entourer d'un petit groupe qu'ils appellent la Fraternité sans bannière. La Fraternité sans bannière, en fait, leur bannière, c'est un morceau de chaque maison. Ils ont découpé les bannières de toutes les maisons auxquelles ils appartenaient. Ils ont découpé les petits morceaux, ils ont fait leur propre bannière en disant que leur devoir était de protéger la veuve et l'orphelin, de protéger le peuple contre les pratiques militaires des armées. Comme ils disent, hein, que ce soit les loups ou les lions ou les dragons, le petit peuple paye tout le temps et donc il faut le défendre. Alors il y a un autre personnage qui gravite autour de Beric, c'est Thoros de Myr qui va le ressusciter à plusieurs reprises. Alors ce groupe-là, il est relativement marginal dans la série, on le voit peu. C'est peut-être pour ça qu'il t'a échappé, au-delà du désintérêt pour l'intrigue de Westeros au sud du mur. Mais il est beaucoup plus représenté dans le roman. Dans le roman, il joue un rôle fondamental parce qu'il va intervenir à plusieurs moments et notamment il recueille Catelyn Stark, revenue de parmi les morts, ce qui n'apparaît pas du tout dans la série. Jusqu'à la saison 4, roman et série sont calqués. À la saison 5, il y a un certain nombre de dérives, hein, très clairement, ils se sont écartés du roman, peut-être pour simplifier ou pour dramatiser plus facilement. Ça leur a paru comme quelque chose d'un peu secondaire. Alors, historiquement parlant, la Fraternité sans bannière peut être renvoyée au phénomène du robinhoodisme.
Robin Hood, donc Robin des Bois.
Alors, Robin des Bois, ou plutôt Robin la capuche. Robin Hood, pas Robin Wood. Ouais, traduction rapide. Donc, Robin la capuche. Alors, la capuche vue comme un moyen de dissimuler son identité. Donc, effectivement, l'histoire de Robin Oxley, hein, dans les bois de Nottingham, est devenue légendaire. Et les historiens ont longtemps essayé de voir est-ce que Robin Wood a vraiment existé. Ou est-ce que...
Alors moi, je me suis promené dans la forêt de Sheffield et à un moment, je suis tombé sur ce qui m'était présenté comme la tombe de frère Tuck. Je revois très bien une stèle. La preuve d'ailleurs qu'il a certainement existé, c'est qu'il a plusieurs tombes.
Alors, au passage, le frère Tuck, cette espèce de moine dévoyé, renvoie à Thoros de Myr. C'est l'homme qui s'est éloigné de sa religion officielle pour rejoindre un espèce de groupe alternatif. Et il va utiliser ses pouvoirs spirituels pour aider ce groupe. Alors effectivement, le problème c'est que les historiens, quand ils ont commencé à chercher pour voir s'il y avait vraiment un Robin Oxley, le problème c'est qu'ils ne sont pas tombés sur un, mais a priori 14 ou 15. Ces histoires de nobliaux, parce que voilà, dans la légende populaire, Robin des Bois c'est un noble, hein, à l'origine, hein, c'est un seigneur, qui refuse le pouvoir royal et qui s'enfuit dans la forêt. Alors la forêt comme lieu symbole du monde en dehors des humains. La forêt, dans l'imaginaire collectif, c'est le monde non maîtrisé par l'homme. Et il réunit une bande de recalés de la société, des gens qui sont en marge, etc. Ou des gens qui ont subi des méfaits de la part de puissants. Et il va s'entourer de cela pour lutter contre le pouvoir local, le pouvoir féodal local, voire le pouvoir royal. Et on a une multitude d'exemples, hein, historiques. Par exemple, en 1322, il y a un certain Thomas de Lancastre qui se révolte contre Édouard II et qui va fonder un espèce de contre-État en disant qu'il refuse de se soumettre parce que ce roi est illégitime. Il y a une question non pas de la légalité du pouvoir, mais de la légitimité du pouvoir. Et pour lui, pour être légitime, il faut défendre le peuple. Et le devoir d'un homme est de défendre le peuple. Donc, une espèce d'idéal chevaleresque sublimé, etc. Et on en a beaucoup d'exemples à l'époque médiévale qui fondent un genre qui est le banditisme social. Donc, le banditisme social, c'est quelque chose qui traverse toute l'époque médiévale, alors qui a tendance à disparaître à l'époque moderne et contemporaine. Pourquoi ? Parce que le pouvoir devient de plus en plus puissant, de plus en plus fort, avec des moyens de contrainte, une administration, une police qui encadre le territoire et qui empêche ce banditisme social, ce qui n'empêche pas de l'assimiler par exemple au mouvement anarchiste révolutionnaire ou au groupe, par exemple les mouvements de punk ou ce genre de choses, hein, qui souvent avaient de la bande à Bono à la fin du 19e siècle jusqu'au mouvement actuel, cette idée de se retirer de la société et de mener des actions plus ou moins légales visant non pas à devenir riche, mais à redistribuer la richesse et à faire vivre les pauvres contre un système qui les exploite, c'est quelque chose de récurrent.
Tu vois, me penser en train de vagabonder du côté de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, voilà, qui a lutté contre cet aéroport, donc qui ne se fera pas, heureusement. L'objet de la lutte contre l'aéroport et son monde. Voilà, on revient à ce monde marchand où le bonheur est forcément assuré par la consommation à outrance et la destruction de notre biotope, etc. Voilà, je referme ma petite parenthèse zadiste.
Non, mais tu as tout à fait raison, il y a vraiment un lien net. Alors, ça disparaît donc à l'époque moderne et contemporaine, du fait de l'émergence de pouvoirs forts et centralisés, sauf qu'on voit que quand il y a une zone d'instabilité ou la mise en place d'un régime jugé injuste, distant, etc., on voit ce phénomène ressurgir de façon récurrente. Ainsi, Joachim Murat, général de Napoléon, qui devient roi de Naples, exerce une domination jugée comme illégitime par les populations très chrétiennes qui refusent, par exemple, la confiscation des biens du clergé et qui trouvent tout compte fait dans leurs anciens maîtres nobles une main paternaliste, etc. Et quand ils voient débarquer des espèces de bourgeois du Nord qui viennent s'accaparer leurs terres, ils apprécient moyennement le truc. On voit ressurgir ce phénomène de banditisme social. 69 bandes armées recensées dans toute la Sicile. Et ces bandes armées ne pillent pas les populations locales. Ce n'est pas des simples bandits. Au contraire, ils s'attaquent aux propriétés des riches. Et évidemment, font vivre les pauvres, ce qui vise à constituer des contre-états, ce qui est la base de la mafia. Si la mafia a eu autant de place jusqu'à aujourd'hui dans le sud de l'Italie, notamment en Sicile, c'est parce que les populations les soutiennent en partie. Certes, ils agissent par la violence, etc., mais c'est aussi qu'ils bénéficient, il ne faut pas le négliger, d'un soutien populaire, parce qu'ils ont fondé un contre-État vis-à-vis d'un État qui était jugé totalement illégitime. Et le jeune État italien, dans les années 1860-1870, sera confronté au même phénomène. Le capitalisme moderne se met en place à la fin du 19e siècle. L'anarchisme politique, par exemple le premier cambriolage de la bande à Bono, où ils attaquent une banque rue ordinaire, et c'est pas pour prendre l'argent pour eux, ils prennent l'argent, ils le jettent dans la rue, criant « Vive l'anarchie !» Et on voit les foules les applaudir, etc., ce qui bien sûr inquiète au plus haut point la police, notamment un certain Georges Clemenceau, qui va leur courir après, parce que non pas parce qu'ils étaient des bandits et que bah, des fois ils tuaient des gens, hein, voilà. Dans les banques, voilà, ils utilisaient le fusil, etc. Mais parce qu'ils jouissaient d'un véritable soutien populaire.
Ma pensée vagabonde à nouveau par d'autres exemples historiques. Théorie de guérilla de Mao. Le guérillero qui ne peut être militairement efficace que s'il n'est que comme un poisson dans l'eau au milieu de la population qui le soutient. Ça va se retrouver dans beaucoup de guérillas. On pense aussi aux castristes, Fidel Castro et sa poignée de Barbudos, qui vont prendre le pouvoir parce que le peuple les soutient. Et puis un autre exemple qui me vient aussi en tête, là je reviens à la période de l'occupation, dès 43-44, dans le Limousin, se constitue un énorme maquis communiste dirigé par l'instituteur Georges Guingouin, qui assure une maîtrise militaire en 44 du Limousin, qui est basée sur l'appui de la population. Et Guingouin a pigé un truc, c'est qu'il faut pas débouler dans la ferme avec les mitraillettes pour confisquer les cochons, les vaches et se servir sur le dos des paysans. Non, il braque des banques et des bureaux de poste et pour aller se fournir chez les paysans, il paye. Et content. Alors évidemment, là, les paysans, contents, ils le sont. Et Guingouin est soutenu par la population parce que il ne l'extorque pas, il viole pas, il pille pas, mais il paye. Et on en revient donc à Game of Thrones et à notre mouvement de navette entre la série, la fiction et l'histoire. Générique du feuilleton Les Brigades du Tigre.
Incognito, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux, ni grands ni gros. ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux en torpedo. De vrais casse-cou à 35 au chrono. Monsieur Clémenceau, c'est plus réglo, c'est la mort du boulot. Pendant ce temps-là, dans vos salons, pour voir des horreurs qui ne vaudront sûrement pas un radis, c'est moi qui vous le dis, Monsieur Picasso. Il y a des dames au diamsco comme des pruneaux. Fou du boulot, 24 heures sur 24 frais et dispo. De vrais robots, toujours à l'affût, jamais au repos. De face, de dos, profil, ils ont nos bobines en photo. Monsieur Clémenceau, pensez à nos femmes et à nos marmots. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans.
De l'histoire à la série, c'est ton bouquin autour de Game of Thrones, Cédric, aux éditions Nouveau Monde. On a beaucoup parlé lutte des classes, hein, et Game of Thrones est très clair là-dessus, et sur bien d'autres sujets aussi. Il y a un autre aspect dans Game of Thrones qui est tout à fait explicite, c'est l'économie. L'argent, les rapports de domination qui passent par l'économie. Par exemple, on voit bien que la puissance militaire de la famille Lannister s'appuie sur le fait qu'ils ont des grosses armées, mais des grosses armées, ça se paye rubis sur l'ongle. Les Lannister payent toujours leurs dettes. Mais en fait, derrière la puissance des Lannister, il y a des banquiers.
Ouais, c'est la cité de Bravo, c'est la fameuse banque de fer qui finance tel ou tel camp. Et on voit à plusieurs reprises, hein, dans la série, les différents camps faire la danse du ventre devant les banquiers de la banque de fer pour avoir les crédits.
Ils ont une puissance militaire derrière eux, la banque de fer ?
Non, pas du tout. Ils n'ont aucune puissance militaire. Ils se contentent de financer telle ou telle faction en s'assurant qu'ils ont les moyens de se faire rembourser. Alors pour ça, ils utilisent assez des assassins qui éventuellement peuvent rappeler à l'ordre un débiteur qui oublierait de rembourser ses dettes. Et on voit par exemple le chevalier Oignon, hein, qui vient pour le roi Stannis demander de l'argent en disant « Oui, mais Stannis va gagner la guerre, donc il faut que vous financiez, vous soyez du bon côté du manche quand vous gagnez. » Et les banquiers de fer, ouais, le regardent en disant « Oui, vous êtes sûr que vous allez gagner ?» Et puis on les voit qu'ils envoient des émissaires à Port-Réal. Et en gros, ils jouent comme ça sur les différents en camp, en essayant de récupérer leurs billes, bien sûr, plus les intérêts. Et Bravo, c'est vraiment Venise, quoi. On a vraiment la grosse banque qui va aller financer telle ou telle action, hein, cette espèce de ville marchande bâtie sur des lagunes, qui va investir sur tel ou tel poulain pour prendre le contrôle du trône de fer. On voit aussi un personnage comme Ilario, qui est le parrain de Daenerys, riche marchand enrichi, ami de Varys, qui va là aussi financer le passage des troupes de Daenerys sur Westeros, et qui lui agit entre l'idéologie, parce que les Targaryens, voilà, c'était sa tasse de thé, aussi par intérêt pur et dur. Donc on voit effectivement cet argent qui joue un rôle majeur. D'autant plus que Ned Stark, et c'est l'une des causes de sa chute, s'aperçoit qu'en fait le royaume est criblé de dettes et que les Lannister en fait n'ont pas d'argent. Ils ont l'argent qu'ils empruntent. À Castle Rock, le siège de la puissance des Lannister, les mines sont vides depuis longtemps. Et que l'or qui arrive ne vient pas des mines, elle vient de la banque de fer. Et c'est l'une de ses causes de sa chute.
Thank you. Game of Thrones, de l'histoire à la série aux éditions Nouveau Monde. On vous le rappelle, on continue notre survol du bouquin, direction l'Orient compliqué, comme disait le général de Gaulle, là par là, dans les montagnes mystérieuses où régnait le vieux de la montagne sur sa fameuse secte des assassins. Qui dit la légende, assassin qui était enfermé dans une espèce de paradis terrestre rempli de jeunes filles à butiner tout en fumant et en mangeant du haschich. Ce qui fait que quand ces assassins, dit la légende, quand on leur donnait une mission, bien ils l'accomplissaient pour revenir le plus rapidement possible au paradis, lutiner du haschich et fumer des jeunes filles, à moins que ce ne soit le contraire.
Mettons les choses dans le bon sens, s'il vous plaît.
La légende dit même, alors en fait c'est une erreur étymologique, que les mots assassin et haschichin, haschich, aurait un rapport, or c'est pas du tout le cas. Alors, il y a quand même une réalité historique derrière cette légende du vieux de la montagne et ses assassins, réalité historique dont R.R. Martin s'est inspiré pour cette secte incroyable des assassins aux mille visages, là, sans éthique, si ce n'est la leur.
Oui, ils ont leur éthique personnelle. Alors, dans le roman, c'est plus détaillé, c'est vraiment très survolé dans la série. Dans le roman, c'est vraiment plus détaillé, hein, où le personnage de Jaqen est vraiment bien développé et il révèle à Arya les raisons et les origines de cette secte. Ça prend essence dans l'esclavage. Et il ne faut pas oublier que Braavos, hein, là où il y a la demeure du Noir et Blanc, est une ville qui a été fondée par les esclaves.
C'est terrible parce que je me sens obligé de préciser là, dans Game of Thrones, parce que oui. Tu es tellement à fond, puis tu es quand même historien. Je me dis, attends, il parle du monde réel ou du. Non, d'accord, voilà.
Et les deux se mélangent.
Donc l'autre, c'est un ancien esclave.
Voilà, en fait, ce sont des esclaves. Il y avait parmi eux un homme qui voyait les prières adressées aux différents dieux, hein, par ces esclaves qui venaient du monde entier, qui avaient été raflés partout sur la planète. Et donc, il a créé ce dieu multiface, ce dieu à plusieurs faces, et chacun peut s'adresser à un dieu unique pour essayer de rassembler les énergies et le combat. Et devant la détresse, hein, de ces pauvres esclaves, il les tuait en disant que de toute façon la mort était plus une délivrance qu'autre chose. Donc ce qu'on retrouve, hein, tout homme doit mourir, hein, Valar Morghulis. Ils se contentaient pas de ça, ils disaient aussi que c'était quand même les maîtres qui étaient responsables de cette situation, donc ils zigouillaient aussi les maîtres. Donc là, il met en place une secte dont l'objectif est à l'origine de détruire les maîtres. On a une forme quand même bien différente qui apparaît dans le récit, hein, et dans l'histoire de Game of Thrones, qui déroule plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires après, hein, cette fondation. Et là, effectivement, on a une secte qui zigouille à tour de bras. On ne sait pas trop pour qui, pourquoi. Ils doivent toucher de l'argent, on se doute, mais c'est souvent assez mystérieux.
Dans la série télé, ils apparaissent comme des mercenaires, finalement, qui roulent pour eux-mêmes. Alors que là, dans le roman, il y a à nouveau cette thématique de la révolte des esclaves, là, qui prend une autre forme que Spartacus, si j'ose dire, que Daenerys. Enfin. Et une fois de plus, on en revient au fait quand même que la lutte des classes dans Game of Thrones est quelque chose d'extrêmement prégnant, quoi.
C'est vraiment un point essentiel, même s'il y a une certaine perversion de l'organisation là, qui a clairement dérivé. Alors perversion, évolution qu'on peut voir un petit peu dans la secte historique des assassins. Cette histoire de secte des assassins, en fait, elle prend essence dans la grande division de l'islam entre chiites et sunnites au 8e siècle.
Ah, je comprends, les hachichins fument du chiite.
Et donc, ces chiites forment les deux branches de l'islam, que tout le monde connaît, mais au sein de chacune de ces branches, il y a encore une multitude de divisions. Et dans les chiites, il y a trois grandes branches qui se distinguent, dont un groupe qui s'appelle les Ismaéliens. Et ces Ismaéliens, notamment, ont pris le pouvoir en Égypte, avec une dynastie qui s'appelle les Fatimides. Alors je vous passe les querelles de succession, etc. En tout cas, on voit émerger le fils d'un certain Nizar, hein, qui était le fils aîné du calife. Donc ce fils aîné s'appelle Hassan Issaba, dit le vieux de la montagne, qui se retire avec ses fidèles à Alamout, dans le nord de l'Iran actuel. Et il envoie des missionnaires un petit peu partout, hein, dans ce Proche-Orient totalement bouleversé par l'arrivée des croisés, hein, qui ont entraîné des modifications territoriales et de puissance politique absolument incroyables dans la région. Donc il envoie des missionnaires pour tenter de convertir ces musulmans totalement déboussolés par l'arrivée de ces croisés à sa vision de l'islam. Sa vision très particulière, une vision très ascétique, qui intéresse un certain nombre de croyants et de dirigeants qui sont bouleversés par l'arrivée des chrétiens. Ils voient dans cette arrivée de chrétiens une espèce de décadence du culte musulman, comme quoi ils auraient été des mauvais musulmans, et c'est ça qui aurait provoqué la colère de Dieu et l'arrivée des chrétiens. Donc, certains succès, mais aussi beaucoup de réprobation de la part d'autres hein, qui voient dans cette espèce d'ascétisme une forme un peu folle, d'accord, hein, peut-être des fumeurs de haschich, voilà. Après la fondation de l'ordre donc, par le vieux de la montagne, apparaît un homme qui s'appelle Rachid al-Din Sinan, qu'on appellera Sinan, hein, qui va devenir le principal dirigeant de cette secte. Et son éloquence, son érudition, son ascétisme attire à lui beaucoup de croyants qui voient en lui un saint personnage. Alors on retrouve un peu la même structure que ce qu'on avait vu avec l'histoire du grand moineau. Hein. On a toujours dans les religions des espèces de retours comme ça, des sortes de fondamentalisme très épuré. À chaque fois qu'il y a un temps de crise, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans l'histoire.
Si on en prend plein la gueule, c'est qu'on n'a pas été assez vertueux, donc voilà, on va faire régime et ceinture.
Alors, régime et ceinture, peut-être pas tant que ça. Pourquoi ? Parce qu'en 1162, le grand maître d'Alamout prétend avoir reçu un message de la part de l'imam caché, alors ce qui est l'une des dimensions essentielles hein, du chiisme, et cet imam caché lui aurait annoncé la révélation du sens secret des choses et tout compte fait ce que les chrétiens appelleraient Apocalypse, c'est-à-dire la fin du monde. La fin du monde physique et le retour d'Allah qui va juger les bons et les méchants, donc l'Apocalypse version musulmane. Alors, Sinan proclame alors la fin de la loi islamique et l'avènement de la résurrection. Donc toutes les règles de l'islam poubelle, lorsqu'il donne lieu à des orgies, c'est pour ça que tout ça je disais, oula, peut-être pas. Oui, là, il y a des choses assez contradictoires, à la fois une espèce d'ascétisme et de l'autre côté, des espèces d'orgies où on picole, où on fume et les jeunes filles, on n'attend pas d'être au paradis pour les avoir sous la main. Et là, ce groupe dit quoi ? Bah, que les dirigeants musulmans, qui sont des dirigeants politico-religieux, les califs, les vizirs, etc., ne sont que des entraves à l'accomplissement de la volonté de Dieu et à l'accomplissement de la fin du monde. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah, il faut les aiguiller, quoi. On voit alors se multiplier des attentats contre les dirigeants musulmans, mais aussi contre des dirigeants chrétiens. Le fait le plus connu se déroule le 28 avril 1192, hein, où des assassins, des partisans hein, de Sinan, s'infiltrent dans le palais de Tyr et assassinent le nouveau roi de Jérusalem, hein, roi chrétien, hein, Conrad de Montferrat, qui est assassiné par ces hommes qui se laissent capturer après. Hein. Donc on a une sorte de fanatisme religieux, une espèce de culte du martyr, qui donne cette dimension très idéologique de cet acte terroriste. Alors ça, c'est l'histoire officielle. Vous voyez, des espèces de fanatiques qui, au nom de leur dieu et de la parole de Dieu, assassinent n'importe qui. On s'aperçoit en réalité, les historiens ont prouvé que les motivations des assassins étaient peut-être plus prosaïques et qu'ils assassinaient, pas au hasard, mais il y avait des commanditaires qui payaient fort cher les services de ces troupes d'élite, hein, capables de s'infiltrer n'importe où, de se déguiser, de se grimer et d'échapper ainsi aux différents contrôles. Ainsi, l'assassinat de Conrad de Montferrat a sûrement été en fait commandité par Richard Cœur de Lion, qui détestait pour des raisons personnelles hein, ce roi de Jérusalem, et il l'a fait éliminer par des ennemis. Plutôt que d'avoir des assassins chrétiens, il a fait venir des assassins musulmans, donc bien sûr, ça ne lui retomberait pas sur la gueule. Et là, ça souligne quelque chose de fondamental. C'est la faiblesse des systèmes politiques monarchiques. Si ce genre de secte a prospéré, c'est que vous avez en fait des systèmes politiques et des royaumes qui ne tiennent que sur une personne. Vous éliminez la personne, ça désorganise complètement le système, comme on l'a vu précédemment avec Robb Stark, où effectivement toute la maison Stark s'écroule du fait de l'assassinat du chef. ça peut nous faire réfléchir aussi à la nature du terrorisme. C'est-à-dire que le terrorisme ciblé, genre j'élimine une cible en espérant que le régime s'écroule, ça nous rappelle un petit peu l'assassinat par exemple de Sadat en 81 par les frères musulmans qui se disaient qu'en butant le chef, le régime allait s'écrouler. Mais ils s'aperçoivent que l'assassinat ciblé en fait ne sert pas à grand chose parce qu'il y a toujours quelqu'un qui prend sa place. Bon, qu'en Égypte c'est une dictature avec l'armée qui est capable de renouveler les généraux jusqu'à la fin. Dans les démocraties, bah on élit un nouveau président. C'est pas un souci si le président se fait buter. Alors bien sûr, je ne souhaite pas de mal à M. Macron, mais voilà, si un président est victime d'un attentat, bah on organise de nouvelles élections, on en remet un autre sur le trône. D'où le changement, je pense. Du moins, c'est une piste de réflexion. De la nature du terrorisme. On passe au terrorisme de masse, le but c'est de faire plier le peuple en fait, de faire plier la population, pour que la population se révolte contre ses élites, contre ses dirigeants, ou du moins les fasse changer de politique. Donc on a ce changement de la nature terroriste lié à la changement de nos systèmes politiques. Ce qui prouve que la monarchie est bien le système politique le plus con du monde. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'auditeurs monarchistes. Hein.
On ne sait jamais.
On ne sait jamais, mais c'est vraiment très très con. Et dans Game of Thrones, vous avez quand même tout un tas de souverains, soit complètement débiles, soit pervers, psychopathes.
Pochetron.
De Ramsay Bolton à Joffrey, hein, des espèces de Caligula version Game of Thrones. Robin Arryn, là, héritier, hein, des herriers, qui est complètement débile, qui rappelle Charles II d'Espagne. Et les rois alcoolos, genre Robert Baratheon, qui fait rien, une espèce de roi fainéant à la mérovingienne. On a vraiment tous les portraits qui nous montrent que la monarchie, vraiment, c'est pas terrible, quoi. Ils sont dégommés les uns après les autres. Et finalement, c'est les femmes qui vont prendre le dessus. Hein. Et donc là, on est à la fin du patriarcat et les femmes arrivent au pouvoir. Point d'interrogation. Que nous réservera la suite? On n'en sait pas grand-chose.
Rien qui chante, Rachid. Rémi Marocco.
Alors Cédric, il y a quand même un débat possible autour de ton bouquin de l'histoire à la série. On le rappelle, toi tu es historien de formation, spécialiste notamment du Moyen-Âge, sur lequel tu as sorti déjà quelques livres. Et n'y a-t-il pas un danger? Parce que ton postulat, il est qu'il y a des gens qui sont fans de la série Game of Thrones, qui elles-mêmes s'inspirent de faits, de lieux, de groupements humains réels. Et ton postulat, c'est que à partir de cette fiction qui passionne des foules, on pourrait emmener les gens vers l'histoire. Et donc, n'y a-t-il pas un danger, sachant déjà qu'on a, pour la plupart d'entre nous, quand même du fromage blanc historique et de la propagande plein le crâne, n'y a-t-il pas un danger à partir d'une fiction pour aller vers l'histoire, dans le culte du médiévalisme de Game of Thrones, de faire croire aux gens que le Moyen-Âge, c'était comme ça?
L'idée, c'est que l'histoire peut apparaître à un certain nombre de gens comme quelque chose d'un petit peu effrayant. Ouvrir un bouquin d'histoire, souvent c'est pas très bien écrit, les historiens ne sont pas des littérateurs. Donc l'histoire, ça peut paraître intimidant et beaucoup de gens peuvent dire « je vais pas lire un livre d'histoire parce que ça me fait peur, c'est pas bien écrit, c'est pas très attrayant ». Ou l'histoire, au contraire, peut avoir un côté un peu « j'ai eu des cours, c'était chiant ». Et donc la fiction, ouais, je trouve ça super cool, c'est rigolo. Je pense que la fiction peut être une porte d'entrée. Moi, en cours, je donne toujours une filmographie et une bibliographie aux élèves, une bibliographie romanesque. Pourquoi ? Parce que ça donne de la chair et du sang, ça donne une concrétisation, ça donne des images fortes qui marquent. Alors bien sûr, celui qui fait la fiction n'est pas un historien. Dans Game of Thrones, le but, c'est pas de faire un univers médiéval crédible. Enfin, c'est pas de faire un univers médiéval réel. C'est de faire un univers fantasy. Voilà, c'est de la fantasy. Un monde médiéval, il n'y a pas de dragons, il n'y a pas de morts vivants, il n'y a pas de murs qui font 200 mètres de haut, il n'y a pas des armées gigantesques, tout ça. Mais ça peut être une entrée. Dire, waouh, putain, le monde médiéval, putain, il y a des trucs qui parlent. Et donc l'idée du bouquin, c'est de dire justement, bah, voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux, voilà de quoi il s'est inspiré, voilà ce qui est effectivement pris voilà, textuellement, et voilà ce qui fait partie de l'imaginaire, du plaisir. Voilà, c'est ça l'idée du livre. Alors, sur quelque chose de médiéval, qui est des petites distances par rapport à la réalité, je sais pas, par exemple l'histoire des prisons, la cellule céleste dans laquelle est enfermé Tyrion, voilà, c'est un pur, voilà, il s'est fait plaisir, quoi. Que les gens croient qu'on mettait des prisons en haut des châteaux, ou ce qu'on croit couramment au fin fond des oubliettes, tout compte fait, c'est pas grave. C'est pas ça, la vérité. Mais que les gens croient ça, c'est pas un problème. C'est quand on fait, par exemple, de la fiction sur des périodes contemporaines, là, les enjeux sont fondamentaux. Il y a une série qu'on aime bien, c'est Un village français, où justement l'apport historique, le soin historique, le soin du moindre détail est très grand pour éviter un impair. Parce que là, par contre, si on dit une connerie, si on met des personnages dans une situation improbable, qui n'a pas pu exister, etc., et que dans la tête des gens, ça devient « ah bah ouais, mais c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé », ça peut être très très grave. Pourquoi ? Parce que là, derrière, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux d'actualité, qui sont fondamentaux et qui peut être ensuite repris, déformé par des politiques malveillantes.
Pour Un village français, l'un des conseillers historiques de la série est Jean-Pierre Azéma, qui est quand même une pointure.
Voilà, et donc c'est une nécessité absolue. Là, quand on fait quelque chose sur la période contemporaine, il faut être nickel, quoi. Parce que sinon, ça peut tourner vite au fromage blanc intellectuel, quoi. Je veux dire, le crâne, ouais, c'est comme ça, et à la fin, on finit par raconter n'importe quoi. Et là, c'est très grave. Sur la période médiévale, honnêtement, on peut se faire un peu plaisir, ça n'a pas d'enjeux fondamentaux.
Tu vois, ça me fait penser à deux films. Il y a Inglourious Basterds de Tarantino. Je pensais aussi à La vie est belle de Benigni. Inglourious Basterds, j'ai tenu 10 minutes. Le pitch, c'est que je sais pas quoi, Hitler veut se faire une séance de cinéma, pique le commando. Alors tu dis, mais ça, non, ça n'a pas existé comme ça. Quand le SOE, Special Operation Executive, envoyait un agent, il avait une durée de vie de 3 semaines, l'agent. Et puis non, Hitler est venu qu'une fois à Paris en 1940. Enfin, moi, je suis un peu agacé par ça. Je dis, si vous voulez inventer des méchants, etc., mais faites-le dans un monde complètement imaginaire. Mais vous servez pas des nazis et d'Hitler. Tarantino m'a agacé pour ça, parce que vu qu'il y a déjà de la bouillasse dans le crâne des lycéens, et notamment américains. Et pareil, la vie est belle de Benigni, bon, qui est une fable, mais Benigni nous présente une vision de fable de ce qu'étaient les camps de concentration, qui étaient des espèces d'endroits où on souffrait un peu, mais si on voulait, on pouvait aller voir sa femme dans le camp d'à côté, puis c'était quand même un peu souple, etc. Et moi, j'étais tout à fait insupporté parce que Benigni, pour les objets de sa fable, enfin, je veux dire, on a le droit d'écrire des fables, etc. Mais je trouve ça dangereux et ça renvoie aussi au rôle de l'artiste, quoi. Bon, est-ce que l'artiste, il se doit à une rigueur historique pour pas mettre du fromage blanc dans le crâne des gens? C'est là que la limite fiction-histoire est un peu, des fois, glissante.
Mais il a dit que c'était une fable. D'entrée de jeu, le film est présenté comme une fable qui ne correspond pas à la réalité historique. Mais par contre, il y avait par exemple une série comme Holocaust qui était présentée comme quelque chose de réel, s'appuyant sur une dimension très historique, etc., qui était mais bourré d'erreurs, mais qui pour beaucoup de spectateurs, notamment aux États-Unis, a été une prise de conscience, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savaient même pas que la Shoah avait existé, et pour eux c'était oh mon Dieu, mais ça existait, mais c'était affreux, etc. Malgré le fait que ça soit bourré d'erreurs historiques, il y a des moments où des personnages peuvent sortir, rentrer, etc., enfin, pour les besoins de l'intrigue, entre guillemets, voilà, c'était pour les besoins fictionnels, et ils se sont écartés de la réalité des possibilités historiques. Et là, du coup, certes, ça a fait prendre conscience aux gens d'un tas de choses très importantes, mais ça a aussi bourré le crâne de conneries, quoi. Et c'est problématique. Alors, Inglourious Bastard, là aussi, c'est une fable. C'est l'art et le cinéma peuvent tuer des grands méchants.
Que j'aime pas les fictions qui font n'importe quoi avec les nazis, mais c'est une autre chanson quand c'est le génial auteur de science-fiction Philip K. Dick qui s'y colle, notamment avec son roman qui a donné lieu à l'excellente série The Man in the High Castle, qui imagine entre autres que les nazis et les japonais ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce même registre, je vous conseille également la très bonne série SSGB, GB comme Great Britain, dont l'action se déroule dans une Angleterre que les nazis auraient réussi à conquérir en 1940. Mais l'Inglourious Basterds de Tarantino me semble décidément trop grotesque. Cela dit, Cédric a un autre Tarantino à suggérer.
Peut-être que tu préfères Django Unchained. Django, Django, have you always been born? Django, Django. Là, du coup, on a une description de l'esclavage, d'une brutalité et d'une réalité qui sont assez saisissantes. Il y a des scènes qui peuvent paraître surprenantes. Quand ils arrivent dans le grand domaine, on voit des esclaves en train de faire de la balançoire, des femmes qui font rien. Mais c'était aussi la réalité de l'esclavage domestique. Il y avait des esclaves qui bossaient énormément, ou bien à des moments donnés, ils bossaient énormément, au ramassage du coton, etc., etc. Notamment les hommes bossaient beaucoup. Mais il y avait aussi des esclaves qui servaient à rien.
Qu'on appelait les nègres de maison.
Voilà, des nègres de maison qui étaient là pour faire joli, hein, qui faisaient rien. Et il y en a beaucoup qui ont été choqués par ces images. On voyait des jeunes filles très belles dans des robes correctes. Elles n'étaient pas en haillons, etc. Elles évoluaient dans le jardin parmi les propriétaires blancs, sans qu'il y ait de tension, ni vu de l'extérieur, ni même d'idée d'hiérarchie entre eux. Et certains ont été choqués de dire « mais c'est pas possible, nanana, on méprise les esclaves », alors que c'était aussi la réalité de l'esclavage. C'était pas que les coups de fouet, qu'on voit hein, quand même dans le film, hein, les coups de fouet, les maltraitances, le travail à mort, etc., etc. Et ce film-là, Django, effectivement, montre à la fois plus une dimension historique, avec aussi un côté fictionnel où Django, voilà, c'est un véritable Spartacus, quoi. Il se contente pas de s'enfuir, il fait tout péter, quoi. Et il libère tous les esclaves.
Quand le réel nourrit la fiction, quand la fiction peut nous ramener vers l'histoire, c'est l'un de tes postulats de travail sur ce bouquin, Cédric, donc tu as sorti aux éditions Nouveau Monde. Ça s'intitule Game of Thrones. De l'histoire à la série. J'ai bon.
Merci, salut.
Et vous le savez, vous pouvez réécouter cette émission et plein d'autres choses sur notre site polemixetlavoixoff.com avant qu'on se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Salut.
Terminé.
Les petits contes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio-Vox.
Radio G. www.radio-g.fr.
Hey, Gange.
Ouais.
Tu vois qu'on en